Radio France Internationale, il est 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, Volodymyr Zelensky accuse la Russie de violer le cessez-le-feu.
La trêve pourtant décrétée par Vladimir Poutine lui-même à l'occasion de Pâques. Alors que Kiev s'était engagé à respecter cette pause dans les combats, la région de Kherson a été la cible d'attaques de drones russes. Nous sommes en direct de Moscou dès le début de cette édition. La guerre contre le Hamas est dans une phase décisive. Déclaration signée Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Défend sa stratégie face à la pression grandissante des familles d'otages. De l'est à l'ouest des États-Unis, des milliers de manifestants dans la rue pour une nouvelle journée de mobilisation contre Donald Trump. Reportage dans ce journal à Austin, au Texas. Et puis le roi de l'afrobeat est de retour. La star nigériane revient avec un nouvel album.
Les combats se poursuivent en Ukraine malgré le cessez-le-feu ordonné par Vladimir Poutine.
Une alerte aérienne a retenti hier soir à Kiev. Le président russe venait pourtant d'annoncer une trêve pour Pâques que l'Ukraine s'était engagée à respecter. Alors que le gouverneur de la région de Kherson a lui aussi fait part d'attaques de drones, Volodymyr Zelensky assure que si la Russie est prête à s'engager dans un arrêt des combats, l'Ukraine fera de même. Jean-Didier Revoin, vous êtes en direct de Moscou. Jean-Didier, alors que Donald Trump s'est agacé de l'enlisement des négociations de paix, on sent ici que Vladimir Poutine tente de reprendre la main.
Mais oui, effectivement, en décrétant cette trêve surprise, à l'occasion des célébrations de la fête de Pâques, Vladimir Poutine démontre son aptitude à se trouver là où on ne l'attend pas, même si, selon lui, cette trêve a été dictée par des considérations humanitaires. On devine également, compte tenu de l'importance de l'Église dans la structure du pouvoir russe, qu'il s'agit d'un signal fort adressé à la population. Mais surtout, le président russe répond à ses détracteurs, Washington et Bruxelles, qui l'accusent de chercher à gagner du temps avant de mettre en œuvre la trêve de 30 jours promue par l'Ukraine et les États-Unis. Avec ce cessez-le-feu qui aurait dû se terminer ce soir à minuit, eh bien le président russe renvoyait la balle à Kiev en disant que la façon dont les Ukrainiens respecteraient cette trêve permettra de juger de leur détermination réelle à négocier une solution pacifique avec Moscou. C'est la première fois depuis le début du conflit, il y a plus de 3 ans que la Russie ordonnait un tel cessez-le-feu et de manière unilatérale de surcroît. Il devait toucher la totalité du front, mais le président russe a précisé que ses forces armées répondraient à toute violence de ce cessez-le-feu comme à tout autre type de provocation de la part de l'ennemi.
Jean-Didier Revoin en direct de Moscou, merci beaucoup.
En Israël, la prise de parole polémique de Benjamin Netanyahou.
Le chef du gouvernement israélien fait face aux pressions de plus en plus fortes des familles d'otages. La guerre contre le Hamas est dans une phase décisive, se défend Benjamin Netanyahou, alors que justement ces familles d'otages, elles réclament un accord et ce pour obtenir le retour des Israéliens qui sont toujours retenus à Gaza. La réponse du Premier ministre israélien fut clair hier. Il se dit convaincu de pouvoir ramener les otages encore aux mains du Hamas sans céder aux diktats du mouvement islamiste palestinien. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
Le Premier ministre israélien attaque ceux qui en Israël demandent la fin de la guerre pour obtenir la libération des otages. Ils font le jeu du Hamas, dit Benjamin Netanyahou. Je ne céderai pas aux assassins, proclame-t-il dans une déclaration vidéo préenregistrée.
En tant que Premier ministre, je ne capitule pas. Nous ne mettrons pas fin à cette guerre de rédemption avant de détruire le Hamas à Gaza, avant de ramener tous les otages et avant de garantir que la bande de Gaza ne présente plus de danger pour la sécurité d'Israël.
Le Hamas n'est pas stupide, ils veulent des garanties internationales contraignantes qui empêcheraient la reprise de la guerre, souligne encore Netanyahou, des propos qui ont provoqué la colère du Forum des familles d'otages et Nav Zangoker, la mère de Matan, captif à Gaza depuis le 7 octobre 2023.
Netanyahou refuse de terminer la guerre pour des raisons personnelles. Il enterre les otages dans les tunnels. Netanyahou, les familles veulent des réponses, le peuple veut des réponses.
Et le Premier ministre israélien réaffirme également sa position sur l'Iran. Nous les empêcherons d'obtenir une arme nucléaire, souligne-t-il. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Les Iraniens justement et les Américains qui se sont quittés hier pour mieux se retrouver samedi prochain après des pourparlers à Rome, donc sur le nucléaire iranien, un nouveau rendez-vous est pris. Troisième volet de discussion qui aura lieu à Oman samedi prochain. Donald Trump évoque lui de très bons progrès sur le dossier du programme nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne a lui assuré que les négociations avançaient.
Nouvelle illustration de la gronde anti-Trump aux États-Unis.
Deuxième journée journée de mobilisation contre le président américain, et ce, en l'espace de seulement 2 semaines. Les organisations de défense de la démocratie aux États-Unis recensent plus de 1400 événements. Des milliers de manifestants sont donc descendus dans la rue. Ils ont particulièrement dénoncé la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, alors que la Cour suprême vient de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens. Austin, le reportage de Nathanaël Vitran.
Comment appelez-vous une administration qui fait un usage illégal de la violence contre des civils pour des raisons politiques? L'administration Trump est une organisation terroriste.
Nous sommes devant le Capitole du Texas, à Austin, la capitale. C'est dans ce bâtiment que sont votées certaines des lois les plus conservatrices des États-Unis sur l'avortement, sur l'immigration. Et c'est aussi ici, sur les pelouses, devant le Capitole, que les opposants à Donald Trump ont décidé une fois de plus de se réunir pour dire « hands off, pas touche ».
Je m'appelle Jim Summers et je suis ici pour sauver la démocratie. On se dirige vers un régime autoritaire. Les gens sont enlevés dans la rue, leurs droits sont niés, les procédures ne sont pas respectées, les universités sont attaquées. Des gens qui sont ici légalement sont expulsés. Je me sens le devoir de faire quelque chose pour mon pays.
Au milieu de la foule, avec son parapluie rose, on repère facilement Allison. Ce n'est pas le nom qu'elle s'est choisi. Elle nous a demandé, pour des raisons de sécurité, d'en choisir un autre. Comme beaucoup de personnes trans aux États-Unis, elle ne se sent plus en sécurité.
Ils s'en prennent constamment aux personnes trans. C'est une stratégie. Et ce qu'on fait aux migrants dans ce pays, c'est terrifiant. Nous avons l'impression d'être les prochains sur la liste.
Avant de se séparer, la foule reprend en chœur. Je me bats pour mon pays, comme un arbre au bord de l'eau. Je ne fléchirai pas. Nathanaël Vitran, Austin, RFI.
Aux États-Unis toujours, ce coup de pouce de Donald Trump à l'une des plus grandes exploitations minières de cuivre. La mine est très controversée et elle a obtenu pourtant un statut de projet prioritaire. Le gisement en question serait capable de fournir un quart de la demande américaine de cuivre au cours des 40 prochaines années. La Maison-Blanche a par ailleurs validé 9 autres projets miniers.
Washington qui lorgne aussi sur des mines congolaises.
La République démocratique du Congo et les États-Unis négocie en tout cas un futur accord minier. Rien n'est pour l'heure signé, mais l'objectif pour l'administration Trump, c'est de favoriser les investissements américains dans le secteur minier congolais. Explication signée Patient Ligaudy.
L'objectif de ces deals est de permettre à des entreprises américaines d'investir dans l'exploitation minière congolaise, mais aussi dans les infrastructures nécessaires, routes, chemins de fer, barrages et énergie. Le gouvernement américain ne gère pas directement les mines, mais facilite les investissements via les institutions comme la DFC ou la banque Exim, expliquant. Les États-Unis insistent sur un partenariat gagnant-gagnant, respectueux des lois locales et internationales, notamment en matière d'environnement, de travail, des luttes contre la corruption. Mais ce projet arrive dans un contexte particulier. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la RDC. Elle représente plus de la moitié des exportations congolaises et près de la moitié des importations. Elle domine aussi largement les secteurs miniers. Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, des entreprises chinoises sont aussi régulièrement accusées d'exploiter l'or et d'autres minerais dans l'illégalité, souvent en lien avec des réseaux de contrebande. Reste à savoir comment les États-Unis comptent s'insérer dans ce paysage complexe, notamment dans ces zones instables. Et sur ces points, Washington reste discret.
En République démocratique du Congo, toujours la retenue semble de mise après l'apparition vendredi de Joseph Kabila à Goma. On ne sait toujours pas si l'ancien chef de l'État se trouve dans la ville sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Quoi qu'il en soit, en attendant une prise de parole de Joseph Kabila, le pouvoir, l'opposition et la société civile de RDC retient son souffle. Un conseiller diplomatique de celui qui a dirigé le pays de 2001 à 2018 promet lui déjà un discours qui fera date.
En Côte d'Ivoire et au Ghana, les récoltes de cacao au plus bas.
Les deux premiers pays producteurs de fèves de cacao ne peuvent pas répondre à la demande mondiale, pourtant au plus haut en cette période de Pâques. Cloche, lapin et bien sûr œufs. En ce dimanche pascal, le chocolat se déguste sous toutes les formes. Mais cette année, ces gourmandises coûteront donc plus cher. Le cours du cacao a flambé. La faute aux mauvaises conditions météo en Afrique de l'Ouest qui fournissent donc 70% des fèves dans le monde. Paul Inglaise.
Les cacaoyers apprécie la chaleur jusqu'à un certain point. Selon une étude récemment publiée dans Nature, des expérimentations menées au Brésil et en Indonésie ont montré qu'une température plus basse de 7 degrés pendant la saison chaude pouvait accroître la production de 30%. L'hypothèse avancée est que cela aurait un impact sur la physiologie de la plante. En tout cas, selon d'autres données, au-dessus de 32 degrés, les conditions ne seraient plus optimales. Alors l'association Climate Central a calculé combien de jours dépassaient cette limite en raison du réchauffement climatique. Résultat, en moyenne, lors des 10 dernières années, dans les régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, le thermomètre a dépassé les 32 degrés en moyenne 80 jours par an. Sans réchauffement climatique, Climate Central estime qu'il y en aurait eu deux fois moins. Limiter les émissions de gaz à effet de serre est évidemment essentiel. Associer une culture d'arbres qui protège les cacaoyers du soleil peut aussi être efficace, au risque d'augmenter l'humidité, explique l'étude publiée dans Nature. Rappelons que la déforestation liée à la culture du cacao a également un impact sur le climat.
Le pape est lui attendu au Vatican pour Pâques, malgré l'incertitude sur sa santé. Impensable il y a encore quelques semaines, sa présence au Vatican est espérée par les catholiques du monde entier pour les célébrations de Pâques, la fête la plus importante de l'année. Le pape, âgé de 88 ans, est en convalescence depuis un mois après une grave pneumonie. Il pourrait donc apparaître à midi, heure de Rome, au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi.
Le roi de l'Afrobeats pour refermer cette édition.
Plus de 3 milliards de streams en 13 ans de carrière. Davido fait danser les foules du monde entier. Avec son dernier album, la star nigériane est devenue le premier artiste africain à figurer en tête du classement des albums iTunes. Deux ans après son dernier projet, Davido revient avec Five. Nour Marzougui l'a écouté pour nous.
Davido, c'est plus de 8 millions d'auditeurs chaque mois et 3 milliards d'écoutes cumulées, ce qui fait de lui un véritable ambassadeur de la musique africaine à l'international. Né au Nigeria dans les années 70, il a grandi à Lagos mais a toujours beaucoup voyagé. Il se définit d'ailleurs comme un citoyen du monde. Un mélange de cultures qui se reflète dans les choix de collaboration de son cinquième album Five, où l'on retrouve des artistes comme Chris Brown, Becky J ou encore les Français Taiki et Dadju. Sept titres pour un album placé sous le signe de l'unité. Pas de barrière musicale, pas de frontières culturelles, Davido mélange les genres et les inspirations. Qu'elles soient caribéennes, latines, américaines, françaises ou africaines, avec Five, tout le monde est réuni autour d'un même chiffre, le 5, symbole selon Davido, d'espoir, de croissance et de changement.
Five, le cinquième et dernier album de Davido pour refermer cette édition.
Et c'était le journal de Simon Bourtembourg. Il est 8h13 à Paris, 6h13 en temps universel. On passe au sport. Avec Victor Misistrano, on commence par le football. En Espagne, Victor, le FC Barcelone se rapproche un peu plus du titre.
Grâce à un succès à l'arraché hier sur le Celta Vigo, 4-3. Déjà buteur, le Brésilien Rafinha s'est offert un doublé avec le pénalty de la victoire à la 98e minute. Le Barça compte 7 points d'avance sur le Real Madrid et 10 sur l'Atlético qui s'est incliné hier soir à Las Palmas 1-0. De son côté, le Real reçoit ce soir l'Athletic Bilbao, éliminé de la Ligue des Champions cette semaine. Les Merengues sont sous pression en cette fin de saison et l'avenir de Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe fait beaucoup parler. L'entraîneur italien préfère ne pas se projeter.
Tout peut se passer. Je pense que nous devrons faire un bilan en fin de saison afin de se projeter sur le futur. Mais lorsque nous sommes encore en course pour des titres importants comme la Liga, que nous avons une finale la semaine prochaine en Coupe, ou que la saison se termine par la première édition de la Coupe du Monde des clubs, j'estime qu'évoquer ce sujet à ce moment précis est malvenu. Ceci dit, nous en parlerons, évidemment.
Et oui, avant de parler, il va falloir jouer et gagner. Real Madrid Athletic Bilbao, coup d'envoi 19h temps universel. En Italie, l'Inter Milan doit aussi prendre des points cet après-midi à Bologne, car hier, Naples a recollé à la première place en gagnant à Monza 1-0, un but de Scott McTominay. Et puis en Allemagne, éliminé de la Ligue des Champions, le Bayern file vers le titre en Bundesliga. Une victoire 4-0 à Heidenheim avec le 24e but en championnat du meilleur buteur Harry Kane.
En France, Nice. Alors que le PSG est déjà champion, la bataille pour les places européennes se poursuit.
Hier soir, Marseille est parvenu à reprendre la deuxième place de Ligue 1. Victoire sans appel au Vélodrome, aux dépens de Montpellier, 5-1. Un doublé de Greenwood, un but contre son camp et des buts de Jonathan Rau et Adrien Rabiot. Dans le doute, ces dernières semaines, l'OM a retrouvé de la confiance face à la Lanterne Rouge et surtout un bon état d'esprit, selon le milieu Pierre-Emile Højbjerg.
On doit regarder aussi la vérité. La vérité, c'est que sur un petit moment, on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait. Aujourd'hui, on a le résultat. Est-ce que c'était notre meilleur match? Non. Est-ce que l'esprit du groupe et de bien faire, il était là? Oui. Et c'est ça pour moi l'importance. Et après, le résultat, il est venu parce qu'on a de la qualité.
L'OM qui profite du 0-0 entre Monaco et Strasbourg. Pas une bonne opération pour les Monégasques face à des Strasbourgeois qui enchaînent un 10e match sans défaite et qui ont offert une belle opposition à l'équipe du défenseur ivoirien Wilfried Tsingo.
Vraiment, c'était un match tendu parce qu'on avait une bonne équipe en face, une équipe joueuse, beaucoup de jeunes qui jouent beaucoup et qui n'ont pas peur à faire sortir le ballon. L'intention, c'était de gagner. On a eu des occasions, on n'a pas pu concrétiser. Mais le plus important, c'est les prochains matchs qui restent. On va essayer de tout donner pour bien terminer la saison.
Et puis, dans l'autre match du jour, le PSG a dominé Le Havre 2-1. Paris qui se prépare pour sa demi-finale de Ligue des Champions contre les Gunners. Les joueuses d'Arsenal sont également présentes dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Défaite au match aller hier soir contre Lyon 2-1. Et aujourd'hui, Marion place à la première manche entre le Barça et Chelsea à 16h, temps universel.
Et on parle de basket à présent, Victor. Le premier tour des playoffs de la NBA a débuté hier soir. Il faut gagner 4 matchs pour rejoindre le tour suivant.
Ça commence bien pour Minnesota, vainqueur chez les Los Angeles Lakers 117-95. New York a disposé de Détroit 123-112. Succès de Denver après prolongation contre les Los Angeles Clippers 112-110. Un peu plus tôt, les Pacers d'Indiana ont survolé leur premier match contre Milwaukee 117-98. Enfin, en tennis, je sais que ça ne vous a pas échappé, Marion. L'Espagnol
Jamais.
Carlos Alcaraz a encore dominé le Français Arthur Fils 6-2-6-4. Il rejoint la finale du tournoi de Barcelone. Ce sera aujourd'hui contre le Danois Holger Rune.
Voilà, du tennis pour moi, du basket pour vous. Tout le monde est content. Merci.
Exactement.
Victor Missistrano. 8h17 à Paris, 6h17 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Marion Kazanov.
À la une de l'actualité en ce dimanche de Pâques, 20 avril, la Russie annonce une pause dans les combats en Ukraine à l'occasion de Pâques, justement. Mais la trêve n'est pas respectée, assure le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a signalé des assauts russes et des tirs d'artillerie hier. Une alerte anti-aérienne a aussi retenti dans la capitale. Quelques progrès sur le dossier du nucléaire iranien. Téhéran et Washington s'affichent positifs après une deuxième session de discussion hier à Rome. Une troisième est prévue la semaine prochaine chez le médiateur omanais. En Israël, le Premier ministre écarte toute possibilité d'une fin de la guerre à Gaza et estime qu'il peut ramener les otages détenus dans l'enclave sans céder, je cite, au diktat du Hamas. Le Hamas a refusé cette semaine une proposition israélienne de trêve. Des milliers d'Américains ont manifesté hier contre l'administration Trump. Donald Trump, le président qualifié de tyran, des manifestations notamment contre sa politique anti-immigration. Le vice-président américain J.D. Vance, lui, se trouve au Vatican. Il a rencontré hier le numéro 2 du Saint-Siège. Le pape François, affaibli, pourrait quant à lui faire une apparition en ce jour de Pâques pour sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, diffusée en Mondovision.
RFI Matin.
Catholiques, protestants, orthodoxes et juifs, tous célèbrent donc Pâques ce week-end. C'est la première fois en 18 ans que cette fête tombe en même temps pour toutes ces confessions. Dans le judaïsme, on célèbre la fin de l'Exode et chez les chrétiens, Pâques marque la résurrection de Jésus. S'ils partagent pour une fois à peu près le même calendrier, chacun a ses propres traditions. Tour d'horizon ce matin des différentes coutumes. Et on part d'abord en Ukraine où la Semaine Sainte a débuté par un jour de deuil dimanche dernier avec une frappe meurtrière sur la ville de Soumy. Hier, la Russie, on l'a évoqué, a lancé une trêve justement pour Pâques, mais Kiev dénonce de nombreuses violations. Pour l'instant, Pierre Alonso, un calme précaire règne dans la capitale.
En ce week-end pascal ensoleillé, les rues de Kiev se sont vidées. Beaucoup d'habitants ont rejoint leur famille pour célébrer Pâques. Car cette année, Pâques tombe le même dimanche pour les catholiques, présents surtout dans l'ouest de l'Ukraine, et les orthodoxes, largement majoritaires dans le pays. Avec environ 85% de chrétiens, l'Ukraine est un pays religieux. La guerre a même provoqué une hausse du nombre de croyants. Ce dimanche est donc un rendez-vous religieux important, mais c'est aussi une fête familiale et même gastronomique. En témoignent les rayons des supermarchés qui se sont garnis d'œufs et de lapins en chocolat, ainsi que de pascha, une brioche au fromage frais et aux fruits secs typiques de cette région. Ce dimanche se termine le jeûne du carême, que beaucoup ont respecté en Ukraine. La tradition veut que les fidèles apportent un panier de victuailles à l'église le jour de Pâques, panier qui sera béni sur le parvis avant d'être dégusté tout au long de la journée.
Au Cameroun, Pâques rime avec sobriété et recueillement. Pas de fêtes dispendieuses ou de frénésie commerciale chez les catholiques, comme l'a constaté à Yaoundé notre correspondant Polycarpe Somba.
Pour la famille Olama, en ce dimanche de Pâques, ce sera messe à 10h à la basilique de Yaoundé, puis à 13h, un déjeuner annoncé comme copieux et élargi à quelques amis invités. A priori, il n'y aura rien de plus pour ces fervents chrétiens catholiques. La fête de la résurrection intervenant d'après le chef de famille, au terme d'une période de recueillement et de privation qui aura duré 40 jours. Même sobriété chez les Kamga, une famille de 8 membres, elle aussi dans la retenue. Ce dernier explique que contrairement à la fête de Noël qui connaît souvent une grande effervescence, la fête de Pâques est précédée par la douleur de la mort de Christ, un contexte pesant, pas toujours favorable aux réjouissances. Salah Aloïse, un ancien séminariste, mentionne néanmoins que le dimanche de Pâques, plus grande fête chrétienne chez les catholiques, est l'une des dates privilégiées pour les sacrements de baptême et de première communion pour les familles. Et à l'occasion, des réjouissances populaires vont agrémenter les célébrations ici et là, aux quatre coins de la ville.
Et il n'y a pas que les chrétiens, donc, qui célèbrent Pâques. La Pâque juive Pessah s'achève ce week-end également, mais elle a une toute autre signification et des traditions bien différentes. À Jérusalem, Michel Paul.
C'est une tradition, la Pâque juive, la fête de la liberté, dure un jour de moins en Israël par rapport aux communautés de la diaspora. Un seul seder, donc, le repas pascal, qui célèbre la sortie d'Égypte et la fin de la période d'esclavage et l'occasion de grandes rencontres familiales. La Pâque est une des trois fêtes de pèlerinage du calendrier juif. Traditionnellement, les fidèles se rendent à Jérusalem, pour la majorité, au mur des Lamentations pour assister à la bénédiction des Kohanim, les prêtres, mais de plus en plus pour se rendre sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, ce que l'orthodoxie juive interdit pourtant formellement. Ce dimanche, alors que la plupart des communautés chrétiennes célèbrent les Pâques, les juifs séfarades fêtent la Mimouna, une tradition qui marque les retrouvailles entre voisins et aussi la levée des restrictions alimentaires de Pessah.
Michel Paul à Jérusalem pour achever ce tour du monde des correspondants.
RFI Matin.
En Ukraine, on en parle ce matin, cette trêve unilatérale lancée par la Russie à l'occasion de Pâques, trêve peu respectée, pas respectée, puisque les combats se poursuivent à certains endroits du front, a signalé Kiev. La guerre en Ukraine depuis 3 ans change la donne pour les armées européennes qui musclent leurs effectifs, leurs capacités. En France, par exemple, on se prépare à la guerre de haute intensité avec des stratégies plus fermes. C'est la chronique, le sujet de la chronique Ligne de Défense avec Franck Alexandre.
Le commandement par l'intention n'a rien d'une formule creuse, dit le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Le commandement par l'intention est même au cœur de la réforme à l'œuvre pour le modèle d'armée de terre de combat 2025.
Mon ordre principal, c'est penser opération, penser effet opérationnel. D'où cette injonction vers l'armée de terre d'ajuster son style de commandement, ses méthodes de commandement vers ce commandement par l'intention, c'est-à-dire donner le sens, laisser le pari de l'intelligence et puis être au rendez-vous sur l'objectif.
L'intention, soit dire les choses de manière claire et courte pour donner le cadre de l'action, mais chaque subordonné conserve une prise d'initiative possible afin d'atteindre l'effet majeur de son chef.
C'est clair que c'est une méthode qui doit s'appliquer à tous les niveaux. Cette notion de sens à donner, la façon dont on attend que tout soldat, quel que soit son niveau, puisse inscrire son action dans une action plus large, qui est l'atteinte de l'intention de son niveau supérieur, ça me semble primordial. C'est clairement une façon de gagner de la vitesse, c'est surtout une façon de gagner de l'adaptabilité, de prendre acte du fait que dans la complexité de la bataille, le plan peut difficilement être posé définitivement d'emblée, et qu'il sera important que chaque niveau puisse exercer son initiative de façon à contribuer à l'atteinte de l'objectif collectif, en ayant compris l'intention, le pourquoi de l'action et de la mission qu'il a reçue.
Les ruptures technologiques, la multiplication des capteurs, estime Pierre Schill, ne permettront jamais aux états-majors d'être omniscients face au déluge de feu d'un conflit moderne. Les troupes auront toujours l'absolue nécessité de se disperser.
Il pourrait y avoir une illusion que un jour on aura des systèmes de commandement tellement puissants qu'on saura en permanence où se trouve chacun, et que un commandement tout à fait central pourrait donner des ordres à chacun des soldats sur le champ de bataille, un peu comme on le ferait dans une équipe cycliste. Je pense que c'est une illusion fondamentale. C'est une illusion parce que les unités militaires, et surtout dans les guerres qui sont potentiellement celles auxquelles nous aurons à faire face, appellent des unités de plus en plus nombreuses. Le brouillard de la guerre, la rugosité du terrain font qu'on ne pourra jamais diriger et avoir la totalité de la perception des sentiments de chacun des soldats. Et donc, des échelons de responsabilité, de commandement intermédiaire devront continuer à exister. Régiments, compagnies, sections, brigades, etc.
Pour remporter la victoire, le dernier des soldats comme le premier des généraux doit avoir la compréhension de la mission de l'échelon supérieur. L'initiative individuelle, insiste le général Pierre Schill, passe donc par le commandement, par l'intention.
Et vous pourrez aussi écouter sur le sujet le grand reportage de Franck Alexandre, l'armée de terre à l'heure de la guerre totale. Il sera diffusé mardi après-demain sur RFI. À Paris, les déserts, des milieux extrêmes et inhospitaliers qui demandent à la faune et à la flore une adaptation particulière à toute épreuve. Et c'est ce qui est expliqué, présenté en ce moment au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, dans une grande exposition. Pour C'est dans ta nature, Florent Guignard s'est intéressé aux astuces des animaux pour trouver de l'eau dans les déserts chauds, pour en trouver et la stocker.
Il y a de la vie dans les déserts, en revanche, ce qui manque c'est l'eau, c'est d'ailleurs ce qui définit un désert, moins de 20 mm de pluie par an dans le Sahara par exemple. Mais l'eau c'est la vie, alors les animaux ont des stratégies pour survivre que nous raconte Anthony Herel, chercheur CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle où se tient l'exposition désert. Et de l'eau, il y en a d'abord dans la nourriture.
L'excès de nourriture, l'excès d'énergie va être stocké en forme de gras, on peut penser aux bosses de dromadaire. Le métabolisme du gras va libérer de l'eau pour l'organisme, ce qu'on appelle de l'eau métabolique, qui donne une ressource supplémentaire en eau.
On ne va plus regarder son gras de la même manière. Les rongeurs, eux, sont friands de graines.
Et dans les graines, il y a de l'eau. En plus, ils vont stocker les graines dans un terrier. Et dans le terrier, c'est beaucoup plus humide qu'à la surface. Et donc, les graines vont se saturer en eau. Et donc, ça donne des ressources supplémentaires pour l'animal.
De l'eau, il y en a aussi dans l'air, dans certains déserts, comme le désert du Namib en Afrique australe, où vit un scarabée, le ténébrion, l'un des insectes les plus rapides au sol pour ne pas brûler ses pattes.
Juste au long de la côte du Namibie, il y a un courant d'eau froide qui passe, qui va évaporer de l'eau. Et donc ça va donner de la rosée le matin. Et donc le ténébrion, il va se mettre en haut des dunes, avec la tête en bas. Et sur la carapace, il y a des microstructures qui vont faire condenser l'eau. Et ça va être amené vers la bouche de l'animal. Et donc il va pouvoir boire de l'eau qui est présente dans l'air.
On s'arrête enfin devant un moloch, un gros lézard d'Australie couvert d'épines.
L'eau va condenser sur ses épines, mais pour lui, c'est pas assez pour vraiment boire, pour vivre de ça. Mais il a une deuxième stratégie qui est assez intéressante, c'est qu'il arrive à remonter l'eau qui est présente dans le sable via un réseau de capillaires jusqu'à sa bouche. Donc après une pluie, il va juste se poser dans le sable mouillé et l'eau va automatiquement remonter jusqu'à la bouche de l'animal et va pouvoir boire de l'eau qui n'est plus présente sous forme liquide.
Quand l'eau est rare, il faut prendre sur soif.
Oh, c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau.
Trouver de l'eau, c'est bien, mais comment faire pour ne pas en perdre ?
Alors, ça peut paraître paradoxal, mais la fourrure est une bonne protection qui retient la transpiration. C'est le cas pour les chameaux, deux bosses, et les dromadaires, une seule bosse. La respiration des camélidés fonctionne aussi comme une climatisation. Leur système nasal permet de rafraîchir l'air humide expiré et au contact de la chaleur, la vapeur d'eau se condense et peut être récupérée. Les insectes et les vertébrés du désert récupèrent l'eau de leur tube digestif et font un caca tout sec. La gerboise, elle, a une urine très concentrée, 5 fois plus que les humains. Il ne faut rien gâcher jusqu'à la dernière goutte.
Oh, c'est l'eau, qui m'attire.
La chanson L'eau de Jeanne Chéral pour refermer cette chronique. C'est dans ta nature et l'exposition sur les déserts chauds ou glaciaire est à voir au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris jusqu'au 30 novembre. À suivre dans quelques secondes sur RFI, l'actualité africaine. Restez avec nous.
RFI à Victoria, 103.8 FM. Rodrigue, 93.2 FM. L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.